Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Catherine Rat, bonjour.
Bonjour.
Et de Mireille Jean-Digotier, bonjour.
Bonjour.
Alors, toutes les deux, vous êtes ici au nom du RADAR pour nous parler d'un accueil prochain d'une famille d'Ukraine et puis aussi en parallèle de famille aussi du conflit syrien et donc d'accueillir aussi une famille à venir. Et vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu toute la logistique et comment se prépare cet accueil. Et en premier lieu, on pourrait vous demander et rappeler aux auditeurs ce qu'est le RADAR.
Alors on va vous faire un petit historique très rapide du RADAR, puisque je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le RADAR depuis plusieurs années, puisque nous avons débuté cette association en 2016, où nous avons accueilli une famille à l'époque à Lucandiwa. Et depuis, nous accueillons trois familles yézidis sur 10. Et depuis ces 3 ans, depuis maintenant ces 6 ans, maintenant on peut parler que ça roule pour eux, ça commence à vraiment prendre un petit ronronnement. Et c'est pour ça que nous avons envie de répondre à une situation dramatique qui se passe au Liban pour des Syriens. Mais aussi, on envisage aussi une aide de la part du RADAR par rapport à la situation qui se passe en Ukraine.
Et donc, on peut rappeler un peu cet accueil de 3 familles hein, déjà effectué. Sur quelle période ça a pu se concrétiser ?
Il faut vraiment se dire qu'il faut se projeter dans le temps, que ça ne se fait pas en 2 mois, 3 mois, même 1 an. Donc, la première famille que nous avons accueillie au sein du RADAR, donc juste quand même redire, hein, RADAR, réseau d'IWA d'accueil des réfugiés. Donc, c'était une famille irakienne yézidi, persécutée par Daesh, qui a vécu en camp un long moment avant de pouvoir arriver en France. Cette famille-là est maintenant été accueillie sur Luc et a maintenant déménagé sur Cré. Nous avons donc une deuxième famille qui était un peu plus dans la vallée et qui est venue s'installer à Die. Et puis une troisième famille, donc toujours pareil, hein, des yézidis, irakiens yézidis qui sont maintenant donc sur Die. Nous avons également 2 jeunes indépendants, donc de la première famille qui est maintenant à Cré et qui vivent en logement indépendant maintenant sur 10, puisqu'ils ont tous deux un emploi. Voilà. Alors, par rapport à la question de la durée, du temps nécessaire hein, pour qu'on puisse oser dire que ça y est, c'est installé, ça roule, eh bien, voilà, il faut vraiment s'inscrire dans le long terme. C'est long pour plein de choses parce qu'il faut s'apaiser, ne plus avoir peur, il faut se tranquilliser.
Comprendre nos codes aussi.
Apprendre la langue.
Apprendre la langue, oui.
Retrouver la santé, trouver ses marques, louer des contacts, la scolarité qui se met en place pour les enfants, le lien avec tout le côté administratif, tous les papiers à faire, évidemment. C'est
l'apprentissage au travail pour les jeunes adultes qui sont arrivés, qui étaient déjà presque jeunes adultes. Donc, commencer à travailler, à apprendre, alors qu'ils maîtrisent très mal la langue, c'est difficile pour eux.
Voilà, c'est très vaste hein, le champ des actions à mener pour que tout s'installe et tout soit compris comme étant installé par eux, y compris par nous. Ça va dans les 2 sens.
Donc, vous proposez donc d'accueillir une famille originaire de Syrie. Et pour ça, comment se lance cette procédure et en parallèle avec l'administration d'ailleurs?
Eh bien, nous avons eu contact avec les couloirs humanitaires. Et de très bons contacts avec les couloirs humanitaires. Et par cette personne, elle nous a déjà proposé en amont quelques personnes, quelques familles qui elle voit susceptibles de pouvoir venir en France. Parce que pour venir en France, quand on est dans un camp, il faut vraiment avoir ces papiers qui sont déjà préparés. Donc il y a déjà quelques familles qui sont prêtes pour venir. Et de ce fait, nous avons l'intention d'accueillir une, voire deux familles selon les logements que nous pourrons trouver.
Oui, c'est la première notre premier souci, du coup, nous, là, et c'est ce que nous demandent les couloirs humanitaires, c'est de trouver le logement adéquat qui pourrait correspondre à... aux compositions des familles susceptibles d'être en départ. Donc il faut bien comprendre que ces familles sont actuellement en camp au Liban, dans des situations, mais alors d'une extrême pauvreté, d'une extrême précarité, de santé parfois vraiment très compliquée, difficile. Enfin voilà, des situations... je ne peux pas là raconter les histoires, ce n'est pas possible. Mais franchement, moi, quand j'entends ces histoires, à chaque fois, ça me fait pleurer, quoi. Je veux dire, c'est terrible, terrible. Et donc là, pour nous, surdits, notre premier travail, c'est de trouver le bon logement. Et alors, la définition du bon logement, c'est que ça soit suffisamment grand pour accueillir une composition de famille donnée. Et en fonction des logements que nous allons pouvoir trouver, eh bien, on dira au couloir humanitaire, ben voilà, telle famille pourra venir parce que ce logement va lui convenir. Ce n'est que ça, en fait. Dans un premier temps, ce n'est purement que de la logistique. Après, tout le reste, ce sera à venir.
Notamment au Liban, hein, où il y a de grandes difficultés, j'imagine, administratives également. Comment se préparent justement ces préparatifs? Comment ont lieu ces préparatifs dans les pays d'origine pour pouvoir accueillir ces personnes? Et je voulais savoir, ces couloirs humanitaires, comment peut-on les définir? Quelles sont ces organisations?
Alors, j'ai du mal à savoir vraiment... Je ne suis pas encore assez au fait, on va dire, de comment ça s'est fait au départ. En tout cas, il faut savoir que c'est le diaconat protestant qui est, comment on pourrait dire, la structure qui chapeaute, en tout cas sur la Drôme, mandatée en l'occurrence par le préfet pour les Ukrainiens, justement, pour gérer tout cet accueil des Ukrainiens, mais aussi qui chapeaute d'une façon générale beaucoup le travail d'accueil des réfugiés. C'est quand même une structure énorme et c'est un peu leur... pas que, mais c'est un peu leur gros savoir-faire. Sur les couloirs humanitaires, donc c'est une association qui dérive, on va dire, du diaconat protestant. Donc c'est une structuration à part entière. Ce sont des personnes qui se déplacent dans les pays où il y a des situations de camp, hein, où il y a des personnes en camp, et qui, avec les administrations des pays, identifie les personnes prêtes, enfin potentiellement prêtes au départ, c'est-à-dire comme disait Catherine à l'instant, en urgence aussi, peut-être définie comme étant en urgence pour des raisons de santé ou autres. Et puis, du coup, il y a des demandes de visa qui sont déposées. Et puis, certains ont déjà des visas obtenus, mais n'ont toujours pas trouvé de lieu d'accueil à l'étranger, et puis d'autres pour lesquels les visas ne sont pas encore obtenus, mais c'est en cours, quoi. Voilà, ça, tout ça prend énormément de temps. On a en magasin, je sais pas, c'est vraiment des fois difficile de trouver les mots justes, et pardon si ça peut être un petit peu gênant, mais des familles par exemple qui sont là-bas avec un visa depuis 2018 et ils n'ont toujours pas trouvé de lieu d'accueil, et elles se morfondent, elles sont dans des situations de désespérance extrême.
Je voudrais revenir un peu sur cette notion de lieu d'accueil. Qui, en France, par exemple, se charge de réceptionner les demandes et comment sont-elles distribuées sur le territoire? Et pourquoi ces lieux ne sont pas forcément retrouvés ou découverts?
Mais c'est donc, si on reprend sur la Drôme, hein, parce que je pense que c'est différent sur certains départements, et là encore, je plaide ma méconnaissance de l'ensemble de la structure, en tout cas sur le territoire français, mais ici, donc c'est le diaconat protestant et du coup les couloirs humanitaires. En tout cas, nous, on s'adresse à eux parce que, quand même, globalement, ça nous facilite le travail. En fait, c'est comme ça qu'il faudrait le dire, c'est qu'il y a un lien entre les couloirs humanitaires et les associations. Les couloirs humanitaires, alors en l'occurrence là, on a une personne, une interlocutrice directe, hein, qui est sur la vallée, qui connaît les situations. Elle a, toujours, on a discuté ensemble, elle avait un Excel, hein, avec une listing de familles, hein, si on parle clair, comme ça vous permet peut-être de comprendre. Et puis, qui s'adresse aux associations. Et puis, c'est aussi aux associations qui décide de faire des accueils, de s'adresser au couloir humanitaire. Ça va dans les deux sens. Donc, en l'occurrence, nous, on se positionne comme étant prêt pour faire un nouvel accueil. On contacte les couloirs humanitaires. On lui dit, ben voilà, là, on est prêt. On n'a pas encore tout à fait le logement, mais on pourrait être susceptible donc d'accueillir. Qu'est-ce qui est possible? Et là, elle nous dit, ben voilà, il y a telle famille, telle famille, telle famille. Du coup, ça veut dire qu'on s'oriente vers tel ou tel type de logement. Voilà.
Est-ce que vous pensez peut-être aussi une certaine lacune dans les médias ou dans les relais de la presse pour justement solliciter un public ou des familles ou des personnes qui puissent héberger ou accueillir chez elles des réfugiés?
Oh, très certainement, parce que c'est en faisant partie de cette association de Loredar que moi j'ai connu ça, et je ne pense pas, si je n'avais pas connu Loredar, que j'aurais connu ce type de structures comme les couloirs humanitaires ou comme le diaconat protestant qui s'occupe des réfugiés. Donc je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance au point de vue du public, et c'est dommage. Oui. Mais je pense qu'il faut quand même faire partie d'une association pour pouvoir accueillir ces réfugiés, parce que l'association quand même sécurise les couloirs humanitaires, et ils savent qu'il y a une structure qui est là en charge et qui prend en charge les accueillants.
Je reviens un peu aussi, je vous avais posé la question sur l'administration, en quoi vous aide-t-elle, quel soutien peut-elle vous apporter aussi dans votre démarche?
Bien, cette fois-ci, les couloirs humanitaires nous proposent une aide vraiment conséquente, puisque quand les réfugiés arrivent, il faut bien sûr tout de suite aller sur Grenoble avec l'OFI pour pouvoir les déclarer en tant que réfugiés. Il faut aller aussi à la préfecture de la Drôme pour pouvoir chercher leur titre de séjour, demander leur titre de séjour. Donc tout ça, faire une demande, ça veut dire aussi préparer les papiers. Et je pense que là, la personne des couloirs humanitaires va vraiment nous aider, parce que ça, c'est vraiment un très gros travail. Et après, il y a tout ce qui s'ensuit aussi auprès de la CAF et toutes les structures administratives.
À l'image de cette famille donc, de Syrie qui va être accueillie, est-ce que vous trouvez quand même du volontarisme pour accueillir au niveau de certains propriétaires, par exemple?
Alors, volontarisme auprès de certains propriétaires, je ne sais pas. Si on peut le dire, je pense qu'il faut, et c'est pour ça qu'on est là, hein, aujourd'hui, c'est pour communiquer sur nos envies d'accueil et pour sensibiliser la population à cette capacité d'accueil. Je crois qu'on a tous cette envie d'accueillir, mais il faut encore la reconnaître, la voir, et puis surtout ne pas en avoir peur, se faire aider. Justement, c'est pour ça que là, le Redar, on est là et qu'on a envie de communiquer sur l'idée qu'on est là et qu'on peut aider. Après, ce qu'on voulait dire aujourd'hui, quand même, de façon forte, c'est que le 8 avril prochain, on organise une réunion publique qui va avoir lieu donc à 18h30 à la salle communautaire de l'espace social. Pour tous ensemble, donc on vous appelle tous qui êtes sensibilisés à cette idée d'accueillir des personnes qui sont dans des situations dramatiques, que ce soit lié à l'Ukraine ou que ce soit lié à la Syrie. Donc, on a envie que le plus possible de personnes viennent nous voir, enfin qu'on se rencontre tous, qu'on échange tous pour essayer de définir un peu des grands axes de besoins. On a des besoins de personnes, enfin c'est une force vive en fait dont on a besoin. Hein. Alors quand on dit force vive, c'est-à-dire un groupe de personnes qui viendraient étoffer le groupe actuel qui fonctionne au Redar, qui est déjà bien occupé par les familles qui sont sur place. Mais pour autant, ce qu'on apportera, nous, c'est la capacité de structuration, le soutien, notre, entre guillemets, savoir-faire qu'on a eu depuis tout ce temps. Et par contre, voilà, donc on a besoin de nouvelles personnes qui seraient motivées et sensibilisées à cette envie d'accueil sur des domaines donc de la santé. Ça serait formidable si on avait une ou deux infirmières qui auraient envie de rejoindre le groupe pour aider à l'accompagnement à la santé des familles qui vont arriver. On a aussi besoin de logement. Donc ça, on l'a dit et on va le redire là. Donc on cherche un logement pour une famille. Voilà. Toutes les propositions sont les bienvenues, on les étudiera, on ne dit pas oui à tout, mais voilà, parce qu'on ne va pas accueillir 10 familles non plus, hein. Loin de là, ce n'est pas possible, mais on cherche un logement. Essourdis, voilà, essourdis parce que là aussi, on a vu qu'on s'essoufflait vite à faire des kilomètres et des kilomètres, et qu'une famille... Voilà, avec une famille qui habite trop loin, et si les accompagnants sont sur 10, c'est plus compliqué. Donc, il vaut mieux qu'il y ait une proximité en distance kilométrique. Ou alors, il y a un village qui souhaite accueillir, qui a un logement disponible, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie mobilisation des personnes dans le village pour aider, quoi. Il faut que les forces vives soient tout autour et en proximité de la famille accueillie.
Et sinon, on recherche aussi des personnes pour l'accompagnement scolaire, parce que très certainement, il y aura des enfants, soit au primaire, soit en école, soit au collège, donc pour les accompagner. Pour aussi l'enseignement de la langue française, bien sûr, puisque ce sont des personnes qui ne parleront pas du tout le français, ou pour aussi un accompagnement à l'emploi pour les plus âgés, les plus grands. Et voilà, donc on a vraiment besoin de vous pour nous aider et pour nous accompagner dans cette belle dynamique que l'on a quand même depuis un certain nombre d'années et qui est en train de se renouveler. Et merci de nous accompagner.
Est-ce que vous avez des données précises sur le nombre de personnes à accueillir et quel type de logement vous recherchez d'ailleurs ?
Mais c'est compliqué ça, parce qu'en fait, la recherche de logement, c'est difficile. Et même pour nous, hein, pour tout un chacun, c'est compliqué. On ne va pas se leurrer. Donc, c'est plutôt de trouver un logement qui va définir la famille qui va être accueillie. C'est absurde d'être dans ce sens-là, mais on ne peut pas faire autrement. On aurait, par exemple, envie, on sait qu'il y a potentiellement des profils de personnes en situation de handicap qui nécessiteraient des logements en rez-de-chaussée. Eh bien, si vous nous entendez et que vous avez un grand logement avec un rez-de-chaussée, ben vous nous dites tout de suite, hein, on prend. Hein, parce que voilà, ça c'est un exemple typique
d'une famille qui a un jeune qui est en fauteuil roulant et qui aurait besoin d'un logement avec la possibilité d'accueillir le fauteuil roulant et de pouvoir être hébergé. Ils sont en attente depuis de nombreuses années et là, c'est difficile pour eux.
Comme quoi, voilà, c'est vraiment la logistique logement qui va entraîner tout le reste.
Pour assurer les propriétaires, il y a aussi une prise en charge des loyers, j'imagine.
Les loyers sont pris en charge par la CAF avec une aide de la CAF. Et puis, au départ, c'est le Redar qui assure le loyer pendant quelques mois en attendant que la CAF puisse prendre le relais. Donc, c'est le Redar qui assure ce loyer.
À l'issue de ces premières familles qui venaient d'Irak, qui sont maintenant bien établies, semble-t-il, quel est leur désir ? Est-ce que c'est de rester en France ou alors ils ont cette nostalgie de leur pays et peut-être d'y retourner quand tout ira mieux ?
Malheureusement, je pense que certainement en eux, ils ont le désir de retourner dans leur pays, mais Ils ont conscience qu'ils ne pourront pas retourner dans leur pays. Pour l'instant, ils recherchent peut-être plus une grande ville dans quelques temps, dans quelques années. Pour l'instant, ils sont bien sur 10, ceux qui y sont, mais peut-être que les enfants grandissant, ils préféreront choisir une plus grande ville. Mais pour l'instant, ils sont bien installés à 10 et bien établis aussi. Ils sont contents d'être là.
Et on peut dire qu'ils ont envie de rester en France parce qu'il y en a beaucoup, en tout cas des jeunes, qui demandent leur nationalité française. Donc, c'est que vraiment, ils ont cette envie de faire partie de la France. Ouais.
Il me semble que certaines administrations, la préfecture ou voire les municipalités, ont des logements d'urgence. Est-ce que vous en avez entendu parler localement ? Et comment ça se passe ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, la mairie n'a pas de logement disponible. Évidemment qu'on les a contactés. Hein. Ça fait partie des choses qu'on mène, d'essayer de faire des partenariats, enfin, en tout cas, de trouver des interlocuteurs sur chacun des domaines qui nous soucient, que ce soit donc le logement ou la santé ou autre. Donc, sur le logement, actuellement, sur la commune de Die, il n'y a rien. Il y a éventuellement, sur le CCAS, peut-être la possibilité de logements un peu plus grands. Mais bon, voilà, c'est encore en pourparler. Ça reste toujours très difficile. Le logement, c'est quand même, pardon de me répéter, mais je crois qu'il faut vraiment le comprendre, c'est le point noir, la chose la plus compliquée à trouver, quoi. Voilà. Si on avait plus de logements, je ne dis pas qu'on accueillerait plus, parce que le logement, quand même, ne fait pas tout. Mais c'est le départ. Si on a le logement, on peut se dire on accueille, mais encore une fois, on ne va pas accueillir 10 familles, parce qu'après, il faut les forces vives. D'où la réunion de vendredi 8, les forces vives qui vont être accompagnantes de la famille qui va arriver. Donc accueillir une famille, c'est un logement, on l'aura tous bien compris maintenant, c'est des finances, mais c'est aussi et surtout
de l'accompagnement du monde avec nous.
La solidarité aussi, et pour ça il y a aussi des personnes, des civils, donc qui proposent d'héberger aussi. Et vous êtes tenu, enfin vous vous tenez à peut-être aider ces civils à recevoir des familles, que ce soit justement pour l'éducation, le travail, la santé aussi.
Oui, oui, on a déjà été sollicité par une famille qui propose un logement pour des Ukrainiens et nous nous sommes proposés donc pour accompagner cette famille ukrainienne si elle arrive pour l'accompagnement des enfants, l'accompagnement des parents si besoin, pour la langue aussi et voir un petit peu toute la logistique s'il y a besoin, on pourra aussi être là.
Alors, les forces vives, vous êtes en recherche pour vous seconder. Actuellement, vous êtes combien dans l'équipe du Redar pour tenir face à cet afflux ?
Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Vous me posez une colle.
Vous étiez une vingtaine, je crois, la dernière fois, vous en aviez parlé.
Oui, ça bouge, oui. En fonction des familles.
Une quinzaine de personnes bien actives, on va dire.
Parce que c'est quand même une activité qui est très prenante et usante, je pense. Et puis, il faut le temps aussi. Est-ce que tout le monde peut l'avoir encore ? Ça, c'est une question.
Non, c'est vrai que c'est prenant, il ne faut pas se leurrer. C'est usant aussi pour le moral, pour la santé aussi, si on s'y met de trop. Et non, il faut y passer du temps quand on s'engage. Voilà, on donne de son temps, donc il faut quand même être un petit peu disponible. Mais après, chacun peut faire aussi à sa mesure. Donc, pas de souci. On ne dit pas que ça prend 24 heures sur 24, pas du tout, loin de là. Hein, mais c'est vrai que ça peut prendre du temps.
Oui. Et chacun vraiment donne, voilà, en fonction de ses compétences, oui. De sa capacité, et tous les niveaux d'investissement sont les bienvenus, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est que on a envie que tout un chacun nous rejoigne s'il en a le désir. Mais vraiment, encore une fois, on rassure. On a, je pense, maintenant suffisamment structuré pour. On a bien compris le job, on peut dire, voilà. Pour pouvoir aider tout le monde, quoi.
Ne serait-ce qu'une heure par semaine, c'est déjà bien. C'est grand. C'est voilà. C'est
Les petites aides sont toujours les bienvenues.
Voilà. Mais oui, les petits cailloux font les grandes, les petites gouttes font les grandes rivières.
Et tout ça, vous l'exposerez donc de nouveau ce 8 avril à la salle communautaire de l'espace social et culturel du Diwa à 18h30, hein, si j'ai bien retenu.
Oui, c'est ça.
Et là, vous, le public pourra peut-être se présenter, s'inscrire et aussi s'informer plus en longueur de ce qui se passe parmi ces familles déjà accueillies. Pour qui ça roule, qu'est-ce que ça leur a permis? Est-ce que certains ont pu, peuvent exercer une profession aujourd'hui? Est-ce que l'éducation est donnée comme il se doit?
Oui, parce qu'il y a la première famille qui est arrivée il y a 7 ans, pas sur Die, mais du côté de Grane, et qui a rejoint Die depuis juillet l'année dernière, qui est le frère d'une famille qui est ici, et qui, lui, travaille maintenant à l'herbier du Diwa, pas encore en CDI, mais qui est en CDD quand même à l'herbier du Diwa. Sa femme a travaillé un petit peu aussi en maison de retraite. Et cette famille est quand même bien installée maintenant et bientôt vers l'autonomie, on va dire. Voilà, a besoin de soutien, mais quand même commence à prendre son autonomie et son indépendance. Donc je pense que là, c'est quand même un grand...
On peut dire aussi qu'il y a pas mal de jeunes hein, qui sont en contrat d'apprentissage, qui sont déjà un grand pied dans le monde du travail, tout en gardant le volet formation, parce qu'ils sont sur des CAP. Il y en a qui ont déjà réussi des CAP, il y en a qui continuent un deuxième CAP. Voilà, il y a plusieurs niveaux qui sont en train d'être vécus. Et voilà, c'est des jeunes, franchement, on peut dire qu'ils sont volontaires quand même pour aller au travail, qui ont une envie de devenir autonomes, de gagner leur vie, d'avancer dans leur vie en France.
En outre, donc le Redar, il y a d'autres associations qui œuvrent un peu dans cette démarche également. Et là, vous auriez tendance à peut-être fédérer un mouvement.
Alors, je ne sais pas si c'est nous, Redar, qui fédérons, mais en tout cas, ce qui se passe actuellement est assez formidable parce qu'il y a une vraie dynamique et une belle énergie sur la vallée de se rencontrer, toutes les associations qui œuvrent dans l'accueil. Pour essayer d'identifier nos besoins communs, nos difficultés communes, pour en face de cette identification-là, essayer de trouver des nouvelles idées ou des idées tout simplement et de mutualiser peut-être nos ressources, d'identifier nos besoins, mais aussi d'identifier nos ressources et là aussi d'essayer de les structurer d'une façon commune, de rechercher des financements en commun et pouvoir s'entraider. Là encore une fois, pour avoir un tissu associatif bien structuré. Voilà.
Dans ce contexte, ces familles déjà accueillies et implantées, est-ce que par solidarité, certaines personnes de ces familles vous secondent ou vous proposent leur aide justement pour relayer un peu cet accueil auprès des nouveaux arrivants ?
C'est difficile encore pour l'instant. C'est difficile pour eux, ils ne sont pas encore tout à fait là-dedans, mais peut-être qu'en les sollicitant, je pense qu'une fois les familles arrivées, je pense que ça peut tout à fait se faire avec eux. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore dans l'idée « on va vous aider pour l'accueil ».
Et d'ailleurs, je reviens un petit peu, il y a ce soutien matériel, bien sûr, mais il y a le soutien moral aussi. Et qui ayant vécu cette expérience ne peut mieux aider ces nouveaux arrivants, justement avec ces familles déjà accueillies.
Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que c'est quelque chose qui nous échappe certainement un petit peu, et c'est pas plus mal. C'est-à-dire que sur la vallée, il y a quand même un certain nombre de familles irakiennes, donc yézidis, qui sont arrivées. Et il y a un mouvement d'ailleurs sur la vallée. C'est pour ça que c'est intéressant que les associations sur la vallée se retrouvent et se parlent et essayent d'agir ensemble. C'est que les familles sont en mouvement. Et du coup, elles se parlent entre elles, forcément. Et nous, on ne comprend rien parce qu'elles se parlent en yézidi. Et du coup, effectivement, il y a quand même une part. Alors, je ne sais pas si c'est d'entraide, mais en tout cas... ça revient à ça, parce qu'elles se parlent de leur situation, elles se parlent de leurs difficultés, elles se parlent, tiens, là, moi, j'ai trouvé un bon plan pour acheter une voiture ou pour acheter, voilà, et tu sais qu'au marché à Fond-Marlette, on peut trouver ces produits, ah, super, voilà. Bon, voilà, c'est des petites choses comme ça, mais elles sont en lien. Effectivement, il y a une diaspora sur la vallée très importante et qui fait que les familles qui arrivent se sentent moins isolées. Ça, c'est vrai. Voilà.
Le Redar, mis à part ce prochain rendez-vous du 8 avril, par quels moyens pouvons-nous vous rencontrer ou s'informer auprès de vous pour connaître l'actualité du Redar ?
Alors, pour se rencontrer, c'est peut-être un petit peu difficile puisque nous sommes une association, mais par contre, nous avons un site internet qui est régulièrement mis à jour et qui s'appelle le Réseau d'Iwa Accueil, que vous tapez sur internet, et là, vous trouverez toutes les actualités, toutes les personnes qui constituent un petit peu le réseau, notre conseil d'administration aussi, et puis toute la vie des familles un petit peu aussi résumée. Et il y a aussi des interviews qui ont été faites par une personne qui fait partie aussi du Redar et qui a interviewé des personnes yézidis.
Et alors moi, je te corrigerai un peu, Catherine, quand même, c'est pas compliqué de nous rencontrer. Vous n'avez qu'à venir vendredi, le 8 avril. Et là, on sera là tous et on vous accueillera. On pourra se donner évidemment les numéros de téléphone en direct, etc. On pourra expliquer, réexpliquer, raconter et surtout, encore une fois, pardon d'utiliser ce mot un peu tout le temps, mais structurer notre travail. C'est très important parce que ça va sécuriser tout le monde et se rassurer sur ce que on va pouvoir ou devoir faire ou être en capacité de faire. Voilà.
Oui, vous avez besoin d'être rassuré vous-même, le Redar aussi, c'est ce que vous dites.
Ben oui, parce que c'est pas rien d'accueillir une famille. Hein. On déplace des gens. Certes, ils sont dans des situations très très difficiles là où ils sont, mais pour autant, c'est pas parce qu'ils arrivent en France qu'il faut reproduire la difficulté. Donc il faut mettre en place tout ce qu'il faut autour pour que ça se passe bien.
Et les premiers temps, faut vraiment être là autour d'eux, auprès d'eux, pour vraiment qu'ils se sentent le mieux possible.
Et je dirais que par rapport, alors bon, nous là, vraiment, Redar, on sera acteur de cette arrivée de familles syriennes. Pour les Ukrainiens, on accompagnera cet accueil. Et il faut bien redire pour les personnes qui se sont inscrites auprès de la préfecture pour proposer des logements, que ça ne va pas durer 3 mois, hein, et ça va être plus long. Voilà, il faut être prêt à ça. On a cette expérience d'une durée de temps qui est toujours bien plus importante que celle qu'on avait imaginée au départ.
Je vous poserai bien la question de savoir pourquoi, lors des années 30, en l'entre-deux-guerres, il y a eu ces accueils des Italiens qui fuyaient le fascisme et les Espagnols qui fuyaient le franquisme. Pourquoi, et qui s'opéraient par centaines hein, à l'époque, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les nombres sont beaucoup plus réduits et en même temps tout semble très difficile?
La machine administrative est peut-être aussi plus compliquée que dans les années 30, j'imagine. J'ose imaginer ça, mais...
Moi, je dirais aussi qu'il y a une proximité. Les Italiens et les Espagnols étaient plus près de la France. Je pense que c'est juste évident que tout ce qui est... toutes les familles ou personnes venant de pays à tendance musulmane, même si les yézidis ne sont pas des musulmans, ça fait peur. On ne va pas se leurrer non plus. Hein. Accueillir des Syriens, ça peut faire plus peur ou inquiéter plus que d'accueillir des Ukrainiens. On n'a qu'à voir. Je veux dire, ce n'est pas si vieux le Liban, ce n'est pas si vieux la Syrie. Combien on a de Syriens, nous, là, dans notre Diwa et dans notre vallée. On va élargir un peu dans la vallée. Et là, qu'est-ce qui se passe là ? C'est la guerre en Ukraine et hop, tout le monde veut bien accueillir des Ukrainiens parce que ils sont peut-être un peu plus catholiques que les autres. Voilà. Pardon hein, pour cette
peut-être même orthodoxe.
Oui, oui. Mais voilà. En tout cas, ça nous semble beaucoup plus proche que ces autres cultures qui font quelquefois peur.
Eh bien, je vous remercie en tout cas Mireille Jean-Digotier et Catherine Rat d'être venues nous parler sur RDIWA de ce rendez-vous donné donc ce 8 avril au sujet des familles d'accueil et des réceptions de familles issues de conflits. Voilà, et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Merci à vous et venez nombreux, on vous attend.
Le vendredi 8 avril.
Show, come on, 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 show,